Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous, éléments précieux à ne pas manquer. Cet épisode aura pour bruit de fond le vivant qui grouille autour de moi. Le sujet du jour. 2 juin 2026, adoption par l'Assemblée nationale de la loi d'urgence agricole. Comment ce projet de loi impacterait-il sur le vivant de nos campagnes? Comment la santé de nos agriculteurs et des consommateurs est-elle préservée? Est-ce que la protection des ressources vitales, eau, sol, air, est assurée via ce texte? Par quoi est défini le caractère urgent de cette loi? Un des précédents épisodes Feuilles de chou décrivait ce projet de loi alors qu'il n'avait pas encore été présenté à l'Assemblée nationale. Désormais, ce projet se tient sur 23 articles et a été débattu pour aboutir à un vote le 2 juin dernier à l'Assemblée nationale. Après plusieurs petits amendements, ce texte a été adopté. Urgence, oui. Ce texte est présenté comme la solution aux problématiques que rencontrent les producteurs et qui, du point de vue du gouvernement, concerne les revenus, l'accès aux ressources naturelles et la réglementation sanitaire. À aucun moment vous ne rencontrerez dans ce texte un questionnement sur la santé des agriculteurs, la santé des sols, ou bien ne serait-ce qu'une allusion au dérèglement climatique et à l'érosion avérée de la biodiversité. Je vous propose de reprendre les grands titres de cette loi et de commenter à chacun d'entre eux l'impact potentiel sur les écosystèmes vivants. Le projet de loi contient donc les objectifs suivants. Un des articles se focalise sur l'eau et facilite les projets de stockage d'eau. En fonction des considérations locales, le préfet pourra ainsi déroger à certaines descriptions des schémas d'aménagement d'eau lorsque l'ouvrage de stockage a fait l'objet d'une concertation entre acteurs. Pour ces projets, la double réunion publique obligatoire pourra être remplacée par une permanence en mairie, tenue par le commissaire enquêteur. À la demande du gouvernement, les députés ont également rétabli le principe d'une proportionnalité des mesures de compensation exigées du porteur de projet de stockage en zone humide et ont adopté une mesure permettant d'alléger les contraintes pesant sur les petits plans d'eau de moins d'un hectare. Cela signifie que les projets de stockage d'eau sont largement facilités et qu'ils ne prennent plus en considération toutes les préconisations portées par le SAGE, le schéma d'aménagement de gestion des eaux, et qui a pour but de préserver la ressource en eau de la manière la plus durable possible sur le territoire. À la suite de cet article, dans l'article 8, l'eau a également été centre de l'attention pour les points de captage d'eau potable. Désormais, un principe d'action obligatoire du préfet autour des captages les plus pollués, les captages prioritaires, a été décrété sans pour autant chiffrer les objectifs attendus. Ces points de captage les plus pollués ne concerneront pas des points où d'anciennes substances désormais interdites ont été détectées, considérant, sans aucun fondement véritable, que ces substances auront disparu sous peu. Tous les autres points de captage dans les zones sensibles seront donc à charge des collectivités, charge qui doit faire l'objet d'une compensation financière, encore aujourd'hui, non définie. Cela signifie que les eaux dégradées, si elles n'ont pas atteint un certain seuil, ne seront pas prioritaires afin de limiter toutes les perturbations, toutes les pollutions qui ont contribué à dégrader ces zones de captage. Un autre article simplifie la mise en place de projets de grands élevages de porcs, de bovins et de volailles. en autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier le régime juridique applicable à ces élevages, notamment en alignant les seuils d'autorisation sur ceux prévus par le droit européen. Si le texte est définitivement adopté au Sénat, un nouveau régime juridique encadrant l'installation des élevages intensifs, des élevages de très grande taille avec une forte concentration d'animaux, sera créé par le gouvernement. Ce nouveau cadre réglementaire facilitera l'installation de la multiplication des bâtiments d'élevage intensifs pour deux raisons majeures. Il prévoit de limiter la consultation publique aux seuls riverains du projet. Il ne pourra pas mettre en place de mesures mieux disantes par rapport au cadre européen en vigueur pour encadrer les activités et impacts des élevages intensifs. Pourtant, plusieurs travaux montrent que continuer à soutenir cet élevage ne permet pas de résoudre la crise actuelle que connaissent les éleveurs, ni d'assurer le renouvellement des générations. Au contraire, cela encourage une tendance d'agrandissement, concentration des exploitations qui pousse les éleveurs à intensifier leurs pratiques et à s'endetter davantage. Pourtant, il existe des solutions qui sont notamment citées par la Fondation sur l'homme et la nature pour permettre une véritable transition agroécologique des élevages et construire un modèle résilient, des plans de désendettement des éleveurs, la répartition des unités d'élevage sur le territoire, la réduction de la concentration d'animaux et donc des impacts environnementaux. Toujours concernant les élevages, un autre article renforce la protection des élevages contre la prédation du loup. En fonction de l'intensité de prédation, le loup pourra faire l'objet de plafonds tirs d'un seuil minimum de viabilité, tout en assouplissant les modalités tirs en cas d'attaque de loup. Le financement du diagnostic de ces attaques, qui peuvent être diverses, et des mesures préventives diverses à mettre en place pour les éviter, ne sont pas documentés dans la loi. Cela laisse une liberté d'interprétation aboutissant potentiellement à une montée des violences perpétrées sur une espèce prédatrice. Face à l'étalement urbain, un énième article renforce ce qui va être nommé « préservation des terres agricoles face à l'artificialisation ». Ainsi, le texte sanctionne le non-respect de la compensation collective agricole et évite que la compensation écologique ne se fasse sur des terres agricoles fertiles. Il étend par ailleurs le pouvoir des SAFER afin de lutter contre le mitage des terres, notamment grâce à une série d'amendements adoptés par plusieurs groupes politiques. Le gouvernement a également fait adopter une mesure à la main du préfet évitant aux agriculteurs de devoir diminuer le traitement phytosanitaire et perdre en rendement potentiellement lorsqu'un projet d'aménagement s'installe à proximité du champ. Désormais, ce sera aux porteurs de projet d'intégrer dans ses plans une bande de haies contiguë au champ afin de respecter une certaine distance entre les riverains et le dit champ. Un petit article s'est également glissé dans la loi avec les sanctions pour vol dans les exploitations agricoles. Certains députés ont étendu ce principe aux dégradations et destructions, ainsi qu'aux intrusions. Par ailleurs, ils ont permis au secteur de la pêche de bénéficier de ces nouvelles protections. Le sabotage de constructions, même illégales, serait donc très fortement sanctionné à l'avenir. L'article traitant du revenu des agricoles a été maintes fois repris en séance. D'une part, il est question de sanctionner plus durement le contournement des organisations de producteurs par les acheteurs, en fixant un délai maximal à la négociation afin d'éviter qu'elle ne tarde dans la seule optique de contraindre l'autre partie à accepter des conditions non souhaitées, et en priorisant l'utilisation des indicateurs issus des interprofessions. D'autre part, avec l'impulsion de la députée Marie Pochon et l'organisme C'est qui le patron, il est désormais inscrit, si le Sénat ne reprend pas ce terme, que les informations sur les prix doivent permettre aux acheteurs de connaître la somme qui revient aux agriculteurs, producteurs. De même, de nouveaux prix planchers ont été adoptés afin de garantir des revenus pour chaque filière, et ce, contre l'avis du gouvernement qui estime que cette décision est contraire aux lois du marché. Gros débat également sur l'article du sanitaire de demain, qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour moderniser et transformer le modèle sanitaire français. En d'autres termes, une porte s'ouvrirait à bon nombre de substances et modes d'application, encore aujourd'hui non définis. Dans l'article 2, sur les cantines publiques, on relève toutefois un changement notable, si celui-ci n'est pas retoqué au Sénat. plusieurs députés, écologistes et LFI, ont fait approuver un amendement pour que l'approvisionnement des cantines publiques en denrées produites soit un approvisionnement 100% français, contrairement à l'ambition initiale du 100% européen. Globalement, la loi d'urgence agricole fait l'impasse sur une urgence qui, du point de vue écosystémique, paraît essentielle. L'effondrement de la biodiversité. Alors même que les populations d'oiseaux des milieux agricoles français ont chuté de 32% depuis 2001, que les vers de terre se font la malle et que les divers auxiliaires de culture disparaissent également. Notons aussi que ce texte fragilise l'un des rares outils juridiques existants pour enrayer ce déclin, la compensation écologique, qui impose aux porteurs de projets d'aménagement de restaurer les milieux naturels et les espèces qu'ils ont potentiellement détruites. Le projet de loi introduit en effet une disposition particulièrement problématique, en autorisant la mise en œuvre de la compensation écologique en milieu agricole à distance des zones impactées par le projet. Concrètement, en découplant géographiquement le site détruit du site restauré, cette mesure contrevient aux principes fondamentaux de cohérence et de proximité écologique sur lesquels repose l'efficacité de la compensation. On n'imaginerait pas faire la restauration d'une zone où est présente, par exemple, une libellule des dizaines de kilomètres plus loin, alors que cette même espèce ne pourrait se déplacer aussi loin. Les conséquences pour certaines espèces, notamment celles qui dépendent des milieux agricoles pour survivre, comme la perdrix grise ou l'alouette des champs, seraient dramatiques. Si leur habitat est détruit, reconstruire un environnement équivalent à plusieurs kilomètres de là ne leur serait d'aucun secours si elles ne sont pas capables de se déplacer sur de longues distances. Sans proximité géographique, ces espèces seront d'autant plus menacées de disparition. Le Sénat ouvrira donc le débat sur ce texte le 29 juin prochain. C'est une nouvelle politique de gestion de l'ensemble de notre territoire qui sera donc votée pendant les célèbres vacances d'été, moment de creux pour toute mobilisation citoyenne. Alors, depuis notre petite place un peu urticante de spectatrices et spectateurs, il est douloureux de se retrouver face à l'évidence que tout cela ne tourne pas très rond. Nous vivons une période où le balancier penche très fortement d'un côté. Penchera-t-il tout autant un jour prochain de l'autre côté, ou bien est-ce que ça y est, le point culminant où la machine s'emballe et explose en mille morceaux est arrivé? Plusieurs philosophes de notre époque ont déjà fait le pas de côté et nous incitent à réécrire ces lignes qu'on nous impose. Je vous citerai donc ce discours de Baptiste Morisot, un penseur de notre époque qui décrit l'emballement que nous vivons et ce vers quoi il nous dirige potentiellement.
Osons ici le mode slogan de manif. Il ne s'agit pas de faire converger fin du mois et fin du monde, mais bien de précipiter la fin du mois, MOI, pour activer la fin de l'immonde. Et d'ouvrir ainsi à une fin, FAIM, du monde, une soif de s'y inscrire en complice, en tisseur, en convive. Il est donc temps de changer les banderoles, camarades, et d'y graffer. Fin du mois, fin du monde, même combo.
C'est d'un conte enchanté dont nous avons peut-être besoin. Que diriez-vous d'un de ces contes afin de garder la porte ouverte sur les vastes possibilités que nous offrent nos imaginaires. Libre, le jour où j'ai délivré les animaux.
Les enfants, aujourd'hui on va au zoo, chante maman avec enthousiasme. Il y aura des loups ? Demande Simon, des étoiles dans les yeux. Mais oui, et des lions, et des singes, et des manchots, et des lamas, babillent joyeusement les parents. Tout le monde est excité, sauf Betty, qui grogne. Arrivés au zoo, papa et maman sont tellement contents. « Regardez les enfants, le roi des animaux !» mugit papa. « On dirait juste un gros chat déguisé !» croasse Betty, blasée. Ce lion a l'air triste, il est maigre et il boite, remarque Simon. Plus loin, maman se colle à une vitre. Oh, les pingouins, ils sont si mignons, quelle grâce! Et ils peuvent aussi marcher hors de l'eau et pêcher en nageant, belle papa. Ce ne sont pas des pingouins, mais des manchots empereurs, répond Simon avec un air savant. Le bassin me semble petit et l'eau d'une qualité douteuse. J'ai faim! Rugit brusquement maman, alors qu'un manchot happe goulûment un poisson entier et que le ventre de Betty gronde très fort. Oh oh! Croasse papa. On dirait que c'est le moment du pique-nique. Non, sale canard, glapit Betty, c'est mon sandwich. Vous avez faim, mes pauvres, déplore Simon compatissant. La petite troupe arrive dans le département des grands singes. Il ressemble à oncle Francis, glousse Betty, planté devant la cage de l'orang-outan. Il y a bien comme un air de famille, admet maman en souriant. « Ce singe a le poil sale et paraît maigrichon, » remarque Simon. Devant l'enclos des lamas, maman tombe en émoi. « Oh, mais j'en veux un comme ça !»« Il me cracherait dessus !» jappe Betty en haussant les épaules. « Je détesterais ça !» Simon est consterné, le lama a le poil rêche et il a des croûtes. « Simon !» murmure maman en broyant la main de son fils. « C'est le loup !» Arrête de manger les petits cochons et laisse le petit chaperon rouge tranquille, beugle alors Betty, à un loup ibérique souffreteux. À la vue du pitoyable loup, le cœur de Simon s'arrête. Il s'imagine alors à la place de l'infortuné animal enfermé dans une cage. Jeune humain de petite taille, âge 6 ans et 8 mois, passionné par le monde de vie des loups. Provenance 44 000, Nantes, France. Être sauvage, être libre, Simon le comprend mieux que quiconque. Je dois faire quelque chose, pense-t-il, tandis que ses parents et Betty poursuivent leur visite. Je dois libérer ces animaux. C'est alors qu'il aperçoit un gardien assoupi sur une chaise et surtout un trousseau de clés qui pend à sa ceinture. Simon se rapproche de lui à pas de loup et parvient à décrocher le trousseau sans réveiller le gardien. Quelle chance d'être malin et habile comme un singe. Mais comment faire sortir les animaux sans se faire repérer? Simon regarde autour de lui et le placard des objets trouvés, le lieu est désert. Il s'empare de quantités de manteaux, bonnets, chapeaux et lunettes de soleil. Il ouvre furtivement les cages des manchots, des lamas, de l'orang-outan, du loup et du lion. Simon les habille avec soin. Parfait! Les animaux ainsi déguisés ressemblent à un banal groupe de touristes. Simon file rejoindre sa famille, suivi de son étrange bande. « La visite est terminée, mes chéris !» beugle papa. « Ça vous a plu ?» ricane maman. « Bof !» grommelle Betty. « Super !» chantonne Simon. Sur le chemin de la maison, papa se retourne. « On ne serait pas suivi par ce groupe de touristes » s'étonne-t-il. « Ils se rendent certainement à leur hôtel, » répond Simon d'un ton dégagé. Arrivé à la maison, Betty fonce s'enfermer dans sa chambre tandis que papa et maman décident de regarder un documentaire animalier à la télé. Simon a tout le loisir de faire entrer les animaux. Il les plonge tous dans un bon bain chaud, à part les manchots qu'il place dans le lavabo avec des glaçons. Puis il les savonne consciencieusement, les frictionne énergiquement et peigne soigneusement leurs poils et leurs plumes. Alors, ça va mieux ? Bam, bam ! Simon, qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain ? Pouah ! Mais quelle puanteur ! Simon, tu as utilisé ma serviette, ma brosse, berk ! Et mon précieux gel douche, tu l'as vidé ! S'exclame Betty. Sortez vite ! Ordonne Simon. Ouvrant la fenêtre en hâte, il se presse de rejoindre ses chers animaux dans le jardin. « On a faim !» marmonne le loup. « Comment va-t-on rentrer chez nous ?» soupirent les manchots à l'unisson. Simon réfléchit un moment, tripotant nerveusement le ballon que maman lui a offert lors de la fête foraine. « Bon sang ! Je sais » hurle-t-il, se précipitant dans la maison où il entend papa gémir sur le canapé. « Chérie, j'ai cru voir un orang-outan et un loup dans le jardin. Je vais m'allonger, je ne me sens pas très bien. » Simon revient les bras chargés de vêtements, serviettes, draps qu'il a pu glaner. « Mes amis, il n'y a pas une minute à perdre. Nous allons construire une montgolfière. » Il pose le kit de couture de papa sur une souche de bois. « Au boulot !» ordonne-t-il aux animaux sidérés. Tous se mettent à coudre, rafistoler, broder. Le ballon, tout bariolé, commence à avoir fière allure. Après de longues heures de travail, la montgolfière est fin prête. Voici le douloureux moment des adieux. On se serre fort dans les bras, les pattes, les ailes, les nageoires. On se promet de se revoir et on a les yeux humides. Simon remet à chacun un sandwich au beurre de cacahuète et une banane. « Rentrez bien, les copains » hurle-t-il à la montgolfière colorée qui s'éloigne déjà. « Et écrivez-moi !» Il se sent immédiatement un peu bête parce que c'est bien connu, les animaux ne savent ni lire, ni écrire. Des jours, des semaines, des mois passent. Et par un beau matin de printemps, Simon, plongé dans la lecture de Cro-Blanc, entend un « toc, toc, toc » contre la fenêtre de sa chambre. En ouvrant la fenêtre, il découvre un pigeon essoufflé apportant un petit morceau de papier roulé autour d'une de ses pattes. Simon déroule le papier froissé et sourit à pleines dents, visiblement ému. Sur le papier, il est écrit « Merci ».
Il y a, dans les Hauts-de-France, un projet qui rallie les mondes pour s'y opposer. Que ce soit des agriculteurs de tout horizon expropriés de leurs terres, que ce soit des centaines de bateliers licenciés, que ce soit des habitants dont le village sera coupé en deux, ou bien encore des experts scientifiques qui alertent sur la destruction irréversible d'habitats naturels. Ce projet fédérateur, pour une lutte convergente, c'est le méga-canal Seine-Nord-Europe. Du 9 au 12 juillet prochain, plusieurs associations organisent une mobilisation contre le projet du canal Seine-Nord-Europe, jugé destructeur en matière d'emploi et d'environnement. Un projet que la société en charge de la construction du canal affirme qu'il permettra ainsi le développement du fluvial, solution écologique de transport de marchandises et facteur de compétitivité des productions et d'attractivité des territoires. Le problème, c'est son coût environnemental, humain et économique, tandis que le canal du Nord, déjà existant, se pose comme une alternative qui n'entraînerait pas autant de conflits et de dépenses d'argent public. Du 9 au 12 juillet, lieu encore non divulgué, c'est un rassemblement convivial qui s'annonce dans le but de continuer à faire savoir à ses décideurs que ce n'est pas une affaire qui se décide sans celles et ceux qui habitent et vivent le territoire. Restez informés via le lien en podcast de cet épisode ou encore en vous connectant au réseau de l'événement, le méga canal prend l'eau.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les tremblent, tremblent être noyés.